qui n'est pas un film sur l'humanitaire directement, mais qui est plutôt représentatif de ce que les humanitaires font. C'est, quand vous écoutez les intervenants ici, vous entendez bien qu'il y a des organisations internationales qui sont d'ailleurs interpellées par le médecin, le professeur en gynécologie, qui dit « Venez, organisation internationale ». Et là, il parle bien des organisations humanitaires. Quand on parle du... quand on entend le ministre de la Santé, c'est qu'il interpelle aussi les politiques qui vont... Ces politiques vont devoir prendre des décisions. Le président de la République qui prend des décisions. Ça veut dire que nous avons ici, en fait, tout le panel des partenaires que vous pouvez rencontrer dans le monde de l'humanitaire. Le premier, avant tout, et si vous rappelez ce que disait le professeur en gynécologie, il disait, nous allons conscientiser les femmes. Ça veut dire que on va aller chercher les femmes, et les femmes en Centrafrique, ça commence à 12 ans. C'est-à-dire qu'il y a des grossesses à 12 ans. Et je sais qu'il en existe ici, elles sont rares, là-bas c'est pas rare. Donc il faut démarrer déjà à pré-ado, même des enfants, et leur parler d'une part de ce que c'est que la sexualité, et c'est évidemment dans des communautés traditionnelles comme en Centrafrique. Mais en fait, c'est emblématique. La Centrafrique, c'est on parle de la Centrafrique comme étant le miroir de toute l'Afrique. Parce qu'il y a au nord des zones sahéliennes, au sud des zones, d'ailleurs à l'ouest c'est plutôt chez les Pygmées, à l'est c'est plutôt du côté ils parlent Swahili, ils parlent comme au Kenya, donc c'est la forêt tropicale donc dans le sud. Donc c'est une sorte de pays qui couvre l'ensemble des problématiques que peuvent rencontrer tous les pays africains. Et c'est pour ça que on doit. C'est pour ça que je vous ai présenté la Centrafrique ce soir. Ça me permettait, moi, de reprendre en fait toute l'Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, c'est une partie. Hein, c'est à peu près 40 à 60. Ça dépend en fait des organisations humanitaires, mais c'est entre 40% et 60% du travail que font les organisations humanitaires se passe en Afrique. Et donc, évidemment, on a tendance d'aller uniquement en Afrique vous présenter le monde humanitaire. Mais le monde humanitaire, il existe partout. Il existe en Asie, où nous avons passé 2 ans au Sri Lanka pour répondre aux problèmes de tsunami, ou dans les Caraïbes, où j'ai travaillé après le cyclone Andrew. Andrew ou Matthew? Andrew, je crois. Bon, en Haïti. Et si vous voulez, les problématiques sont les mêmes. C'est manque de vouloir politique, manque de sécurité aussi, où il y a des conflits. Alors c'est des conflits, souvent des conflits internes, hein, entre ethnies, entre... alors ici, en plus, en Centrafrique, on a mis... On a collé une étiquette religieuse derrière ce conflit qui n'en est pas un, d'ailleurs. Ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit plutôt ethnique, mais surtout politique, qui a été amené par les pays... il y a des mots anglais qui me reviennent. Par les pays voisins, comme... Je ne sais pas si je dois citer les pays voisins. C'est pas une bonne idée. Non, je suis de la Croix-Rouge, je ne peux pas le faire. Bon, les pays voisins qui interviennent dans la Centrafrique, comme ils sont intervenus en RDC, par exemple, dans le nord et le sud Kivu. Donc vous voyez qu'il y a une très forte... La première difficulté, en fait, c'est d'avoir les leaders politiques qui veulent trouver des solutions pour leur population et pas pour eux-mêmes. Ça, c'est déjà le premier problème. Mais ces leaders politiques sont connus par les autres leaders politiques, de l'Occident en particulier, qui qui les utilisent et qui font que on puisse continuer à travailler et puis à prendre quelques ressources, particulièrement en Afrique où il y a tellement de ressources intéressantes pour nous. Et je parle pour les Occidentaux en général, hein, pas pour que les Français. Il n'y a pas que les Français dans cette histoire. Donc ça, c'est la première chose. Et je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est le ministre de la Santé qui est là insiste à chaque réunion que nous avons ensemble, c'est de dire les communautés doivent être impliquées dans leur propre réponse pour que cette résilience que l'on ramène soit la plus durable possible. Donc c'est on voit bien ici que l'humanitaire commence d'abord dans le pays. Commence d'abord dans le pays avec les communautés, avec le pouvoir politique. Et sans pouvoir politique, on ne peut rien faire. On peut même rentrer à la maison. J'étais au Soudan, à Khartoum, où nous avions... dans le gouvernement, il y avait on appelait ça... le HAC, c'est Humanitarian Affairs Council, c'est le conseiller des affaires humanitaires qui était là plutôt pour faire de la répression sur les organisations humanitaires. Et c'était très compliqué d'arriver au Darfour ou d'arriver dans le Sud-Soudan qui n'était pas un pays à cette époque-là. Mais on y arrivait quand même. Bon, on passait par des voies diplomatiques qui mettaient la pression sur le HAC et ça nous permettait quand même de faire le travail. Ensuite, vous avez les agences des Nations Unies. Vous avez vu le dernier intervenant, qui est le docteur Séverin Xilander, qui lui aussi fait partie de ces réunions où on se retrouve et où là, le ministre lui met la pression pour qu'il puisse ensuite répercuter ses demandes jusqu'au niveau des Nations Unies, de New York. Ce qui permet d'avoir des fonds, qui permettent ensuite d'avoir de la reconnaissance des problèmes rencontrés dans le pays et qui amène l'argent à... Ben, parce que les Nations Unies, les agences des Nations Unies ne font pas, pour la plupart, ne sont pas du tout des agences qui mettent en place les projets. Ils financent des projets. Ils coûtent très cher, ça c'est sûr. Le ministre lui-même le dit tout le temps, vous me coûtez trop cher. Mais ils ne mettent pas en place les projets, ils donnent l'argent, ils distribuent l'argent à des organisations non gouvernementales. Il y a deux types d'organisations non gouvernementales, c'est la locale, nationale, qui souvent, malheureusement, n'a pas bonne presse et a des difficultés dans la gestion, ce qui fait que, toujours en liste rouge, difficile de travailler directement pour les agences des Nations Unies de travailler directement avec les organisations non gouvernementales. Et puis il y a les organisations non gouvernementales internationales. Et là, vous en connaissez sûrement beaucoup. On en a vu une, c'est Médecins Sans Frontières, où j'ai travaillé 12 ans avec eux. Et Médecins Sans Frontières a la particularité, c'est que ils ont des fonds propres. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la pression ni politique, ni du pays, ni des pays d'où ils viennent, comme là c'était les Belges, et ils peuvent arrêter une action sans avoir de répercussions par rapport au bailleur ou, je ne sais pas, le meilleur terme serait donateur ou bailleur. Voilà. Ils ont une particularité. D'autres ont des particularités différentes. Comme IRC, International Rescue Committee, qui est une des plus anciennes, qui a été fondée par Einstein, quand la guerre allait commencer en Europe, 39-45, je parle, hein, et Einstein a envoyé des bateaux jusqu'à Marseille, récupérer les Juifs pour les ramener jusqu'aux États-Unis. C'est pas très connu. Les premiers bateaux, c'était pour ramener surtout des vivres, et du matériel de secours et ensuite c'était pour les ramener aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a des et c'est cette IRC en fait fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas avec de l'argent venant de la population, mais plutôt dans des grands dîners spectacles où il y a M. Bill Clinton ou M. Obama, etc., où chacun paye 5 000 $ l'assiette et cet argent va directement dans les caisses de IRC. Voilà, c'est deux types d'organisations qui sont complètement différentes, mais qui ont quand même la même indépendance, en fait. Bon, la différence, c'est qu'il y en a une qui est européenne et l'autre qui est américaine. Et pour avoir travaillé avec les deux, c'est très particulier, quoi. Le fonctionnement est différent. Ce qui est important dans tout ça, c'est la Croix-Rouge. Et je ne vais pas faire du prosélytisme pour la Croix-Rouge, mais il y a quand même une particularité dans la Croix-Rouge, c'est qu'elle est à la fois organisation non gouvernementale locale, nationale, hein, parce qu'on se retrouve avec ou une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge localement, avec des branches dans toutes les régions, avec des volontaires là où personne ne peut aller. Il y a toujours un volontaire. Et en même temps, ce sont des organisations internationales pour lesquelles je travaille. Donc, vous voyez, c'est le seul mouvement ou organisation qui a ces deux particularités-là. Vous avez entendu plusieurs choses dans le film où vous avez... et là, je voudrais parler maintenant d'un autre volet. C'est le volet des catastrophes, des désastres, ce que nous rencontrons, pourquoi nous, réellement, nous sommes là. Et il y a, bien sûr, tout ce que nous savons à travers la télévision, hein, j'en parlais tout à l'heure du tsunami, par exemple, ou des tremblements de terre, mais il y a comment on appelle ça, des catastrophes silencieuses. Les catastrophes silencieuses, c'est le résultat, par exemple, du changement climatique, de toute la bande sahélienne qui commence à descendre sur l'Afrique subsaharienne et qui en fait pousse les nomades à descendre plus que d'habitude, qui se mettent en conflit avec les agriculteurs, et agriculteurs qui prennent les armes contre les nomades. C'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe en Centrafrique, mais ça se passe aussi au Soudan, ça se passe... au Cameroun, ça se passe un peu partout, Niger, Mali, etc. Et vous avez ce conflit nomade agriculteur, fermier, qui va être de plus en plus fort parce que chacun veut garder une partie de ses capacités. Et c'est une problématique qui amène des mouvements de population importantes. Et là, c'est une autre catastrophe, parce que mouvement de population, ça veut dire... On se dit souvent, mais comment ça se fait, quoi ? On plante un piquet et ça devient un arbre, un africain. Dans la terre, on plante un truc et puis ça pousse tout seul, quoi. Seulement, ça pousse tout seul si on le regarde, si on travaille autour. Les agriculteurs, vous allez comprendre tout de suite que si vous vous en allez pendant 6 mois, ce que vous avez planté, c'est fini, quoi. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Et là, je ne parle pas de 6 mois, mais plusieurs années. Quand les gens sont en mouvement de population, ce sont des mouvements qui, par exemple, quand il y a eu la réponse des... Alors là, je vais rentrer dans les termes. Non, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Quand il y a eu des mouvements de population du nord vers le sud en Centrafrique, mais c'est la même chose au Niger, il y a des gens qui sont partis donc, du sud et sont allés au Cameroun se protéger. Mais ces gens-là sont devenus des réfugiés, enregistrés par le Haut Commissariat aux réfugiés, Nations Unies, et sont restés là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et souvent, en fait, hein, des camps comme ça peuvent rester 10 ans, 15 ans, 20 ans. On l'a vu, si vous vous rappelez, en 1994, il y a eu le génocide au Rwanda. Les gens rentrent, il y a des gens qui rentrent aujourd'hui au Rwanda. Ils sont rapatriés aujourd'hui. C'était en 94. Donc, ça fait 25 ans. Ça veut dire que dans ces camps de réfugiés, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des ONG locales, des agences des Nations Unies, UNICEF, HCR particulièrement, UNICEF travaillant sur les enfants particulièrement, et on trouve les organisations internationales comme MSF, Oxfam ou ACF, Solidarité, enfin toutes ces organisations qui ont en général une particularité dans leurs actions. Voilà, donc un mouvement de population, ça amène une catastrophe humaine, financière, puisque le pays, là on parle de 1,5 million de personnes, dans un pays qui a 5,5 millions d'habitants, on enlève 1,5 million, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez ? Ça, c'est le genre de catastrophe qu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir combien ça a réellement coûté au pays, mais on le voit, nous, quand on travaille sur le terrain, on voit la décrépitude d'abord des infrastructures du pays, et ensuite on voit le résultat catastrophique de tout ce qui a été, tout ce qui a été détruit. Le problème, c'est que quand on détruit quelque chose et qu'on pousse quelqu'un, il s'en va, mais il va revenir. Et quand il revient, il trouve quelqu'un chez lui. Voilà. Et comme c'est la terre de ses ancêtres, eh bien le conflit recommence. Donc, il faut aussi faire de l'action humanitaire, faire de la diplomatie humanitaire et rentrer aussi dans cette gestion de conflits permanents et travailler avec les communautés sur le psychosocial, sur des actions beaucoup plus... mobilisation communautaire, surveillance communautaire, des choses plus difficiles à appréhender, mais qui sont extrêmement efficaces quand on met en place des projets où on implique, à travers cette mobilisation communautaire, on implique les gens dans leurs projets pour leur réponse. Et là, ça marche. Si vous prenez, par exemple, ce qui se passe au Congo avec Ebola, eh bien, les gens se sont battus, les populations elles-mêmes, on lançait des cailloux, on lapidait les volontaires qui voulaient les aider. Pourquoi ? Ben, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont toujours été mis à l'écart par le gouvernement de Kinshasa. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter là, ici, là ? Pourquoi ils viennent ? Pourquoi ils nous amènent Ebola ? Donc, ça veut dire que les gens pensaient que Ebola venait de Kinshasa. Et d'autre part, parce que, pas impliqués dans le système, on cassait toutes les traditions en mettant du chlore, en mettant les gens dans des bagues, des sacs blancs en plastique, etc. On casse toutes les traditions. Et là, ils se révoltent et ils brûlent même les centres thérapeutiques Ebola. Donc MSF a eu un centre brûlé, un médecin qui a été tué, parce que, évidemment, là, c'est un peu plus compliqué. Au Congo, c'est parce qu'en plus, il y a les rebelles et les Maïmaï, des groupes armés. Vous voyez, la complexité en fait des projets que nous mettons en place fait qu'on doit prendre du temps pour que les populations s'approprient ces projets, pour que les populations puissent elles-mêmes travailler sur leur propre résilience et que quand une nouvelle catastrophe arrive, elles ont déjà les connaissances, comment elles peuvent répondre elles-mêmes, elles ont déjà les équipements, elles ont déjà ce qu'il leur faut. Je finirai... c'est à peu près... Ça va ? Oui, ça va. Donc je finirai par une chose qui est... j'ai un petit peu parlé de ça tout à l'heure, c'est... aujourd'hui, quand j'ai commencé, en 93, j'ai commencé... c'était un peu... fallait être un artiste hein, pour travailler dans l'humanitaire. C'était un peu l'aventure. On vous envoyait comme ça, et puis voit ce qu'il y a à faire, et puis on verra. C'était la 93. Il y avait quand même, hein, du professionnalisme, mais plutôt en amont. Plutôt dans les bureaux, plutôt dans la gestion logistique, plutôt dans les dans le fonctionnement... même de l'organisation, mais ça manquait de professionnalisme quand on envoyait les gens sur le terrain. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils devaient faire, leurs objectifs, pas de profil de poste ou ce genre de choses. Donc ça devenait un peu brumeux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, il y a des cursus humanitaires. À Aix-en-Provence, vous avez un master en gestion de projets humanitaires. à Bioforce à Lyon. Vous avez aussi un master en gestion de projets humanitaires. Vous avez des logisticiens de projets de solidarité. C'est la même chose. Vous avez des administrateurs, tout ça en licence. Vous avez des masters aussi en administration et finance. Les financiers sont des financiers à un haut niveau de finance qui sont sur le terrain avec moi. Donc on se retrouve avec des masters qu'ils ont fait aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en Asie, et on se retrouve avec des gens hyper professionnels. Bon, moi j'ai un peu ramé, il a fallu que je me secoue un peu, hein, et que j'étudie au fur et à mesure que à chaque fois que j'avais des missions, il fallait que je travaille pour que je puisse suivre cette évolution. Et donc j'ai aussi dû avoir mon master, etc. Donc heureusement d'ailleurs. Et le dernier diplôme, c'était un diplôme de diplomatie humanitaire à Genève. Et ce cursus-là existe aujourd'hui. Et on peut démarrer à partir de... en général, enfin ça dépend, hein, mais il y a quand même, c'est un haut niveau. Hein, c'est où on est ingénieur en eau et assainissement, par exemple. Et là, vous allez travailler avec des organisations qui vont travailler sur l'eau, sur les forages, où vous travaillez sur là, c'est encore un autre cursus. Mais tous ces cursus, en fait, que vous allez suivre, vont vous amener à un je dirais pas à ce goulot d'étranglement, c'est juste que vous allez ensuite, une fois que vous aurez toutes ces connaissances, vous allez prendre la connaissance de la gestion humanitaire d'une mission. Et c'est arrivé au bout, c'est-à-dire vers 25 ans, quelque chose comme ça, hein, 25, 30 ans, on vous envoie en stage. D'ailleurs, la Croix-Rouge française fait des stages comme ça, hein, envoie des stagiaires sur le terrain pendant 3 mois pour évaluer la personne, pour savoir quel est son engagement, comment elle va pouvoir s'investir dans cette personne-là. Parce que ce n'est pas évident. Je veux dire, quand une personne vit en France et puis on la catapulte au milieu de, par exemple, de la Centrafrique, elle peut repartir 15 jours après. Donc l'investissement, c'est fini. Là, on a perdu de l'argent, du temps. Et en plus, c'est une personne qui va manquer pendant 1 mois. Parce que le temps de refaire la procédure pour retrouver quelqu'un, ça devient compliqué. Donc, vous voyez, c'est un cursus qui est très intéressant. C'est de l'international. Si vous avez des gens qui veulent s'investir dans l'humanitaire, les portes sont ouvertes. C'est à s'engager dans l'humanitaire. Voilà, je pense qu'on va passer à la troisième phase. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Denis pour cet éclairage. Et j'espère que les questions vont être nombreuses pour encore avoir quelques clarifications.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement quel est votre poste, l'une ou l'autre de vos activités lors de vos différentes missions, pour qu'on ait un aspect plus concret de votre action, ce que vous faites en pratique?
Alors, ça dépend. Je vais prendre 3 missions. La première, celle du milieu et la dernière. Voilà, hein, ce sera simple. La première, c'est... je suis parti au Mozambique, dans une région qui, au nord, avait des inondations et au sud, la sécheresse. Mais toute la province, qui était collée au Zimbabwe, c'est la province de Manica, fait 700 km de long, et donc tous les jours, en avion, ou en haut, ou en bas. Ça veut dire se lever à 4 heures du matin tous les jours, samedi, dimanche inclus, et préparer l'avion, partir, travailler avec les gens sur place, les équipes qu'on avait mis en place sur place pour faire des puits, des forages, et améliorer les conditions des populations pour éviter qu'elles attrapent le choléra, puisque le choléra était endémique. Donc j'ai travaillé sur l'ensemble du projet tous les jours et on a réussi sur le coup, on peut dire qu'on a réussi à ne pas avoir le choléra dans l'année. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est fantastique parce que dans le sud, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas vu l'eau au centre du village, puisqu'ils sont d'abord c'est je ne sais plus, les Portugais pendant la guerre de l'indépendance avaient miné le village. Ensuite, les autres sont arrivés, ils ont reminé le village autour, et puis enfin, il y avait une autre encore minée. Donc, on ne pouvait pas y aller autrement qu'en avion, et on a amené tout le matériel pour faire un forage de 70 mètres en avion, et on a réussi à faire sortir l'eau, à faire jaillir l'eau. Avant cette eau-là, les femmes faisaient 20 km pour aller chercher de l'eau. Je trouvais ça j'étais très fier de mon histoire. Au nord et dans tout le long de la route qui remonte vers le nord, il y avait des points d'eau. Il fallait nettoyer le puits, etc. Il fallait rentrer dans le puits. Voilà, c'est une mission. C'était ma première mission et c'était une mission fantastique parce qu'un avion, pour moi tout seul, et puis monter, descendre en permanence, même s'il fallait se lever à 4 heures du matin, c'était sympathique. Mais il faut voir que le résultat était largement plus sympathique que ça. C'était parce que, évidemment, au fur et à mesure, pendant un an, on est toujours avec les mêmes personnes et on commence à sympathiser. Vous avez en plus des cultures assez incroyables. Bon, je vais peut-être vous choquer, mais la première fois que je suis arrivé dans le sud, tout à fait au sud, l'administrateur est arrivé de l'avion, vers l'avion, et puis il m'a dit oh, venez avec moi. Ok. On traverse le village et chaque fois qu'on croisait une femme, elle se mettait à genoux et il lui posait la main dessus, sur la tête. Et après, on continuait. Et à chaque fois qu'une femme qu'il croisait, il fallait qu'il mette la main sur la... Et puis, ce sont les gens qui parlent avec le claquement de langue dans le... Alors, tout ça, c'est un échange de culture. C'est tellement enrichissant. Celle du milieu, je dirais... la Tchétchénie, ce n'est pas tout à fait au milieu, mais enfin bon. C'est par exemple, importer un wagon, un train de marchandises de Bruxelles, passant par Berlin. Et Berlin, non, à l'époque, je crois que... Si, ils avaient déjà cassé le mur. Hein. donc, de l'Allemagne, on va dire, c'est comme ça, c'est plus simple. Et puis... C'est toute la Russie pour arriver jusqu'en Tchétchénie et avec des produits alimentaires parce que les Tchétchènes n'avaient plus rien à manger. Mais traverser la Russie pour un train qui va en Tchétchénie, c'était pas facile. Donc on a travaillé avec tous les voisins, Kabardino-Balkar, enfin, toutes les républiques autour qui ont permis que ça puisse arriver. Et on a fait venir par des moyens de diplomatie forcenée. On a fait arriver toute l'alimentation en Tchétchénie, à Grozny. Et il faut savoir que ce n'était pas pour les combattants, mais c'était plutôt... Le truc bizarre en plus, un peu paradoxal d'ailleurs, c'est que c'était pour les personnes âgées qui se trouvaient à Grozny, bloquées, qui n'avaient pas pu partir de Grozny. Et ces personnes âgées, pour la plupart, étaient russes. Puisque là, les Russes sont partout dans toutes les républiques anciennes soviétiques. Donc, en fait, on a mené des repas chauds depuis Bruxelles aux Russes qui étaient en Tchétchénie. Ça, c'était une autre mission. Et je dirais, la dernière mission, celle-ci, c'est plutôt une mission diplomatique. C'est-à-dire, il y a bien des équipes qui travaillent, hein. Je suis avec 4 docteurs, un pharmacien, je suis avec deux ingénieurs de construction. Et en fait, c'est très particulier puisqu'on travaille sur la réhabilitation complète du système de santé de la République. Et là, on parle de formation de recyclage pour les agents qui sont déjà en poste, formation des médecins et paramédicaux, sages-femmes, etc., dans les instituts et les facultés, facultés qu'on va réhabiliter, on est en train de monter tous les dossiers, réhabilitation de la faculté, de l'institut, donc ça c'est déjà... Et ensuite, on est en train de terminer les documents aussi pour démarrer la réhabilitation d'un hôpital de district, un hôpital décentralisé, où on réhabilite. Alors la réhabilitation, c'est une réhabilitation au niveau occidental, hein, c'est pas ce que vous avez vu là. c'est avec panneaux solaires, forage, c'est l'eau à tous les étages, c'est incinérateur, et c'est avec des plans de maintenance nationaux, c'est des plans de gestion de l'environnement. Dans les projets, on est obligé maintenant d'avoir ces plans-là, hein, malgré la situation qu'on peut voir là. Il n'empêche que les nouveaux projets sont obligés d'avoir des plans de gestion de l'environnement et du social. D'où on revient sur la mobilisation communautaire des projets. Et alors mon travail personnel dans tout ça, c'est la coordination. D'abord, bon, je ne vais pas être humble là-dessus, mais c'est moi qui ai conçu le projet qu'on est en train de mettre en place en Centrafrique, c'est moi qui l'ai conçu. Et, ah oui, et j'avais oublié qu'on va aussi financer 250 étudiants avec des bourses d'étudiants. Donc, le concept en fait de tout ça, je l'ai travaillé avec le gouvernement allemand, hein, qui venait régulièrement à Yaoundé, et parce qu'on a passé 6 ans à Yaoundé, hein, comme aussi représentant, mais... Et on a travaillé sur ce concept-là pour qu'on puisse réhabiliter l'ensemble du système de santé du pays. Et moi, je travaille directement avec le ministre et avec les gens que vous avez vus là. Et même Colette de MSF, qui est en fait ma contreparte pour les organisations non gouvernementales, internationales. Voilà, donc c'est de la diplomatie humanitaire, en même temps que de la coordination des travaux avec les ingénieurs, avec les superviseurs, avec les bureaux d'études techniques, avec et évidemment avec les politiques, hein, parce que oublier le doyen de la faculté quand vous allez refaire et vous mettez pas les pieds dedans, hein. C'est clair. Attention, quand je dis oublier, c'est l'impliquer dans le projet. Hein. Il n'y a pas un dollar qui va dans les poches de quelqu'un ici. Hein. Il y a la fraude et corruption derrière nous. C'est clair, quoi. Tchac, tchac, tchac. Les Allemands sont derrière nous, ils nous surveillent, et l'organisation, notre organisation aussi, a son département à ce niveau-là. Voilà.
Une question un peu brutale. Vous êtes vus comme des colons, ou des fils de colons, ou des petits-fils de colons, quand vous arrivez là-bas ?
Je vais vous répondre brutalement. Je suis vu, et je vous assure, ma femme pourrait le confirmer, je suis vu comme un Africain, moi. Oui. Non, 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 pas le concept de couleur, mais le concept de se battre pour l'Afrique et se battre pour les gens en Afrique, la population. Et les gens, ils se disent, mais il y a même des gens à Genève qui se disaient, mais c'est qui là, le Denis Dufault là? Ben c'est lui, là. Mais non, il n'est pas africain, celui-là. Où il est, l'Africain? Non. Et voilà, c'est ça. C'est un peu ma fierté aussi. Hein. C'est de dire que on a un idéal et on se bat pour cet idéal. C'est un engagement, un militantisme. Et évidemment, il y a des gens, des comportements. Hein. Et là, je vous rejoins. Il y a des comportements qui sont... Non, je vous rejoins parce que il y a des comportements, et dans ce cas-là, la personne, elle ne fait pas long feu, hein, parce que ce soit dans mon organisation ou dans d'autres organisations, s'il n'y a pas de l'empathie envers les populations avec lesquelles on travaille et pour lesquelles on travaille, ça se passe très mal, et avec les collègues, et avec le staff, et avec les populations, et avec les autorités. Donc, en général, ces gens-là ne passent pas le niveau de l'interview, puisqu'il y a toutes ces personnes-là dans le panel de l'interview pour pouvoir aller travailler sur ce genre de terrain. Oui, je comprends. J'ai le même sentiment, hein, de toute façon. Mais j'ai cette empathie et que j'ai en même temps les masters, je peux pas. D'accord. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est parce qu'une empathie, c'est pas moi qui vais juger si je l'ai ou pas. C'est ce qu'on me dit. Hein. Mais je suis d'accord aussi. C'est que malheureusement, avec ce système-là, il y a des énergies, des gens fantastiques qu'on laisse passer de côté. Quoi. Ils passent comme ça. Et je vais même aller plus loin dans nos systèmes. Et vous avez de toute façon le même problème dans toutes les entreprises d'un certain niveau. Ou qu'est-ce qu'on fait avec les CV? On les passe d'abord dans un système informatique qui va filtrer tout. Et après, on va recevoir une dizaine de CV. Et là, parce qu'on en aura la casquette, parce que ça fait 10 fois qu'on fait des interviews, ben on dit à un collaborateur ou une collaboratrice, bon, filtre-moi ça, mets-moi en 3, et puis on verra. Et là, on passe d'abord avec l'ordinateur, on passe à côté de plein de richesses. Et là, parce qu'on a trop de travail, on est trop surbooké, on est trop, on passe à côté de plein de choses. Je suis d'accord, totalement. En même temps, celui qui est réellement qui a la rage, qui a les dents, il va trouver le moyen. Il va rentrer là-dedans. J'ai un collègue qui à peu près a démarré à peu près au même niveau que moi. Et il n'est pas passé par le cursus licence, master, diplomatie, etc. Eh bien, il est obligé de s'arrêter maintenant. Parce que il n'a plus le lien entre les demandes, les besoins et ses capacités. C'est même pas une question de capacité, vous avez raison. C'est une question de reconnaissance dans ces diplômes-là, bizarrement. Voilà. Mais c'est oui, et d'un côté, c'est un peu non aussi. Voilà.
Des fois, quand je regarde l'Afrique, ouais, ça marche. Ouais. Je me dis que nous, on a un modèle, et peut-être qu'aussi on veut trop faire notre modèle là-bas. Et donc, dans un sens technologique et tout ça, et dans un sens qu'on fait, c'est que beaucoup, on va amener des ingénieurs, on va amener des gens, d'abord. Ils sont, du coup, il y a un grand gouffre entre leur savoir-faire peut-être ancestral et finalement où ils vivaient d'une autre façon que nous. Et du coup, on leur met notre modèle et du coup, ils deviennent très pauvres. Parce que finalement, ils ne connaissent pas cette science. Et quand je regarde l'Afrique, elle n'évolue pas. Elle évolue dans certaines villes parce qu'elle s'est très occidentalisée. Mais tous les pays où ça ne s'est pas occidentalisé, finalement, on arrive dans l'urgence parce qu'on les a rendus, qu'ils ont un modèle qui est mal vu, qui est vu comme misérable. Et finalement, nous, est-ce qu'on n'est pas, regardez, on regarde maintenant, nous, on se dit nos technologies, on en revient aussi, parce que finalement, le truc climatique, ça vient beaucoup de nous et pas d'eux. Mais nous, avec notre pollution, avec tout ça, industriel et tout ça, et finalement on arrive là-bas et on les noie, j'ai l'impression, on les pille d'un côté, parce que en même temps, regardez, quand on vient, parce qu'ils sont très riches par rapport à nous, on n'a pas d'uranium, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, on n'a rien, mais on a besoin d'aller là-bas pour leur prendre tout finalement et de les rendre bêtes par rapport à ça, parce que finalement, s'ils devenaient très intelligents, ingénieurs et tout, il nous dirait, bon, vous foutez le camp, on va vous revendre le pétrole comme vous le vendez aux autres, au lieu de nous le prendre comme ça. Et des fois, j'ai l'impression que l'Afrique, parce que c'est un énorme pays, l'Afrique, c'est un énorme continent, je veux dire, rempli de pays, avec une force extraordinaire. Les individus sont puissants, ils sont beaux, ils sont extraordinaires, ils ont une culture incroyable. Et on n'a jamais été vraiment à leur rencontre. Nous, on arrive, et quelque part, on vient avec nos forages d'eau, avec nos ci, avec nos ça, mais eux, ils avaient des traditions aussi. Mais quelque part, dans notre modèle à nous, ils sont pauvres. Vous voyez, des fois, j'ai cette impression, et c'est pour ça que l'Afrique, après, elle est remplie de je ne sais pas, il y a quelque chose qui est étrange. Alors, bien sûr que dans l'urgence, moi, je comprends tout à fait la Croix-Rouge, l'UNICEF, tout ça, parce qu'il y a une misère qui est maintenant installée de notre civilisation, en fait. Mais quelque part, ça, c'est dans l'urgence, et c'est bien. Après, de vraiment rendre l'Afrique autonome, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce cursus-là qui va s'en sortir.
Waouh. Bon, d'abord, on ne les rend pas bêtes, non. Ils gardent leur intelligence et beaucoup de pays s'en sortent assez bien, voire même très bien. Et vous prenez l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, il y a une grande brochette, le Kenya, l'Éthiopie, même avec des difficultés, mais c'est un grand continent. En 2050, il y aura 2 milliards d'Africains, dont la moitié, c'est-à-dire 1 milliard, aura moins de 18 ans. Donc, c'est des gens jeunes, et en Centrafrique, c'est moins de 16 ans, la moitié de la population. C'est des gens jeunes, beaux, intelligents, forts, et qui regardent la télévision satellite, qui ont des smartphones et qui travaillent sur ordinateur. Alors, on leur a amené, d'accord, mais c'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas leur enlever, c'est une réalité. Ils sont au même niveau que nous de technologie. Alors peut-être pas partout, on l'a vu, c'est pas partout. Mais ils ont le même niveau de technologie, d'intelligence, des écoles d'ingénieurs. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a, et je travaille avec un Ivoirien d'ailleurs, ingénieur, qui est largement au-dessus de beaucoup de monde que je connais, même en France. Donc La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est d'appréhender cette Afrique. On ne connaît pas, d'une part, j'essaye d'ailleurs de vous la partager en même temps que de vous partager un peu le monde humanitaire, mais on ne la connaît pas parce qu'on veut la stéréotyper. Et c'est un peu ce que j'ai entendu, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Il faut penser que l'Afrique, elle a ses grandes difficultés, d'une part, et pour beaucoup, avec ce changement climatique qui fait que, vous savez, il n'y a pas de, par exemple, puisque on parle un peu d'agriculture, un paysan, il sait exactement quand est-ce qu'il va mettre la graine dans le sol pour que ça pousse bien, parce que il y a la saison des pluies qui arrive. C'est-à-dire qu'en février, il y a une petite saison de pluie de une semaine. Après, il y a un mois un peu de sécheresse, et après seulement, il y a la saison des pluies, la vraie. Et là, on parle de tradition millénaire, comme vous en parlez. Et lui, il se dit, je ne vais pas la planter là, parce que si je la plante pendant cette petite saison des pluies, je vais me faire avoir, parce qu'après, la plante, elle va être toute rikiki, elle va peut-être mourir. Deuxième saison des pluies. Seulement, elle n'arrive jamais. Parce que la saison des pluies, elle a commencé. Il n'y a plus la petite saison sèche, par exemple, à certains moments. À d'autres moments, ça va s'arrêter au bout de 2 semaines. Il ne sait plus quand est-ce qu'il faut planter. Parce qu'il n'y a pas d'irrigation. Ça n'existe pas. Si vous voulez, le changement climatique amène des catastrophes. Et on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir non pas changer le changement climatique, ça serait difficile. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas l'Afrique qui fait... le plus de dégâts au niveau environnemental. Moi, je mange bio tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les saletés qu'on met dans la terre. Donc, il y a même, je me rappelle, un gars, un réfugié au Cameroun qui me disait... Moi, je leur disais, alors, si vous avez besoin de quelque chose, partagez avec moi, je vais voir ce que je peux faire. Et l'agriculteur, il vient me voir, il me dit, oui, j'aimerais avoir un désherbant, là. Vous pouvez pas me... Je suis désolé, je peux pas. Il y a des... Attention, hein, je ne veux pas mettre les problèmes avec les agriculteurs. Les désherbants, il y a sûrement des choses bien et des choses pas bien. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne sais même pas. Et je ne suis pas celui qui pourrait vous donner un avis professionnel. Mais il n'empêche que ça a des répercussions sur la vie des Africains. Et après, on se dit, mais comment c'est possible que... Ben, comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à manger de leur terre ? Ben, parce qu'il y a un problème, c'est que quand vous ne faites pas la soudure après, avec la deuxième saison des pluies, eh bien, vous ne pouvez plus manger. Et alors après, on dit famine. Encore une famine, mais comment c'est possible ? Ben, c'est possible parce qu'on n'a pas su mettre la graine au bon moment. C'est carrément de la loterie, quoi. Alors je mets la graine, puis je regarde, puis... non, ah ben non, c'est râpé. Puis l'autre, le voisin, il n'a pas mis, il le met là. Ah, lui, il a gagné. Voilà. C'est un peu une sorte de loterie. Donc, notre schéma occidental, madame, eh bien, il est déjà là. Même dans les petits villages, vous verrez des paraboles. Des paraboles satellites. Pourquoi ? Ben parce que celui qui vit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, eh bien, il a envoyé... la télévision satellite, il a Canal+, au village, et il a le petit générateur qui va bien, et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il propose ça, Canal+, pour tout le village. Comme ça, il regarde... ce qui fait que ensuite les enfants, ils ont envie d'aller là-bas. Et là, on parle de migration. Vous voyez ? Et là, on parle de choses sensibles. Voilà.
Dernière question.
Oui, j'ai été extrêmement intéressé par votre témoignage parce que je pense, et c'est ma question, et j'aimerais avoir votre point de vue, qu'il y a plusieurs façons de faire de l'humanitaire. Alors il y a la façon qui est la vôtre, mais qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que c'est presque une vocation, un métier. Il y a dans les mille façons de faire l'humanitaire, il y a les grandes organisations dont vous avez fait partie pour certaines missions, que sont le Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, l'UNICEF, mais il y a aussi des mille petites façons qui sont à notre portée, hein, et c'est pour ça que je voulais intervenir pour témoigner de ce que chacun d'entre nous peut faire dans l'humanitaire. Donc, je préside bénévolement une association en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bouaké Centre de Santé, dont l'objectif était, après la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, de créer plutôt un centre de santé et une maternité dans un coin qui était totalement démuni, dans des petits villages autour de Bouaké. Donc j'y suis allé à plusieurs reprises. En tant qu'occidental, ce n'est pas nous qui devons faire. C'est fournir, on l'a très bien vu dans le film que vous avez montré, ça part des Africains eux-mêmes. Hein, ce n'est pas à nous d'arriver, de dire, bon, ben voilà, on va faire. Non, c'est vous qui allez faire. Nous, on vous donne les moyens, on vous forme, et puis on vous donne les moyens de faire. Donc là, il s'agissait de faire un centre de santé, une maternité, comme pareil, problème de mortalité en Côte d'Ivoire, qui est aussi très importante, périnatale. Donc, le problème était... que les Africains eux-mêmes soient responsables. Donc, on a créé là-bas une association d'Africains et de politiques notamment, et on a organisé des réunions avec tous les chefs de village, parce que ce qui était important, c'est qu'ils prennent, eux, la responsabilité, c'était leur affaire. Et nous, notre association, on a apporté, évidemment, le budget qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire récolter auprès de différentes fondations en France un budget quand même assez important de 300 000 euros qui a permis de faire un super bâtiment. Donc après, On a recruté médecins, infirmières, pour les sages-femmes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Africains, c'est les Africains. Ils ont fait deux ans, par exemple, et pour différentes raisons, le dispensaire n'a pas marché. Et il a fallu se rendre... Il y avait différentes raisons qui ont été évoquées. On a été obligé, pour des raisons financières, ils n'étaient pas à peine d'assumer eux-mêmes, de le fermer, et là il va être retransformé certainement, parce que le bâtiment est superbe, et c'est dommage qu'il soit perdu. Donc, pour dire que il y a un problème africain aussi, c'est eux les responsables, c'était pas à nous à le faire. Mais quelquefois, il faut accepter la mentalité africaine, le temps aussi, qui met énormément de... Le temps, vous pourrez en témoigner, n'est pas le même qu'ici. Donc, il faut accepter l'âme africaine, et avec toute humilité. Alors, pour terminer, je dirais que nous avons à côté, à Carbone, une association... aussi de bénévoles qui s'occupent, qui s'occupent des enfants à Madagascar, qui font un travail merveilleux. C'est une misère à Madagascar, vraiment. Donc il n'y a même pas un or par jour au niveau du revenu. Donc avec des petits moyens, alors, ils paient la scolarité des enfants, d'une centaine d'enfants à peu près, toute l'année, donc c'est chacun membre de l'association qui donne que 100 euros, ça suffit. Avec ça, les enfants peuvent aller à l'école, peuvent manger du riz à midi, c'est tout petit, mais c'est énorme pour eux, et en même temps, ils viennent également de participer à la création d'un centre de santé. Bon, pour dire que moi j'appelle ça le petit humanitaire, parce qu'il est... Puis alors on sait où ça va, on connaît les gens, donc c'est pas comme quand on donne, si vous voulez, un don à une grande association, on leur fait confiance, mais on sait pas souvent le retour. Madagascar sont revenus, il y a eu un échange, donc je crois beaucoup à ces petites gouttes d'eau là qui font des fleuves après, et que ce petit humanitaire, chacun d'entre nous peut le faire.
Oui, merci de nous rappeler qu'il n'y a pas que les grosses organisations. Il y a aussi des organisations qui sont plus limitées dans les moyens, mais qui font de grandes choses. Et j'ai un ami qui s'appelle Sabaté à Muret, qui a aussi une organisation qui est un peu particulière d'ailleurs, qui amène les gens à vivre des activités humanitaires en Afrique, je crois que c'est au Mali. Et ils vont construire un poulailler ici, réparer un générateur là-bas. Et donc, ils payent leur voyage, ils payent aussi leur séjour, et ils payent un petit peu aussi pour pouvoir mettre en place le projet. C'est des organisations qui font vivre, en fait. Il y a une myriade d'organisations comme ça qui arrivent à faire vivre, en fait, des petits villages qui sont un petit peu oubliés. Et un poste de santé dans un petit village, c'est important. Ce qui manque quelquefois, c'est le lien qu'il y a avec le système national. Et c'est là où une organisation, comme la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge nationale, peut amener un lien avec le national, ce qui fait que dans un poste de santé qui n'est pas reconnu par le ministère de la Santé, peut être reconnu, et ça veut dire que les moyens nationaux vont pouvoir être développés dans un poste qui serait réhabilité ou reconstruit dans ce genre-là. C'est important de pouvoir faire le lien toujours avec le national. Je me rappelle de cet ami, Sabaté, qui m'a dit « Le danger, quand on arrive quelque part, c'est de vouloir mettre absolument quelque chose en place alors que ça existe dans le village à côté. Par exemple, un poulailler industriel... pour pouvoir vendre les poulets. Si vous en mettez un à chaque village, le poulet n'aura plus de valeur. Donc c'est extrêmement... avant de faire de mettre en place un projet, il y a une étude qui doit être mise en place. Mais j'irai encore plus loin, si vous voulez. Je suis sur Internet, hein, par email, je reçois des emails d'une petite organisation de Rieux-Volvestre. Il y a peut-être des personnes qui sont ici de cette organisation. Non, pour les, c'est des Syriens qui sont venus là, ici. Hein? Oui, il y avait, ils sont pas restés longs jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont sur Aspect maintenant. Bon, voilà, ça c'est une action humanitaire qui est très très limitée dans, géographiquement, mais qui fait qu'il y a une famille qui a pu arriver ici en bonne sécurité et qui a été prise en charge. Et c'est ça, c'est le plus beau, la plus belle activité du monde humanitaire, c'est de rendre la dignité, respecter la vie et puis de l'empathie envers des gens qui sont vulnérables et qui souffrent et qui sont victimes de conflits qui les dépassent complètement, quoi. Voilà. Donc là-dessus, c'est moi qui vous applaudis.
Bon, Denis, je me suis trompé tout à l'heure, sinon c'était l'avant-dernière. La dernière, elle va arriver maintenant.
Vas-y. Obligatoirement, bien sûr. Oui, ça y est, j'ai réussi à contrôler le micro. Mais je ne suis pas sûr de contrôler tous les ONG. Parce que pour préparer un petit peu cette soirée, j'ai jeté un petit coup d'œil dans ce secteur auquel je ne connais absolument rien, si ce n'est quelques associations locales, bien entendu. Et là, j'ai été impressionné par le nombre d'associations, d'organisations, d'ONG diverses et variées au niveau mondial. J'en ai compté plus de 180. J'ai été étonné. Donc les grosses, uniquement, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et de l'autre côté, en action en Afrique, et de l'autre côté, on lit beaucoup aussi qu'il y a d'énormes enjeux pour le futur en Afrique, ne serait-ce que la progression en termes du nombre d'habitants, et qu'on a un concurrent qui, apparemment, je n'ai rien trouvé dans son action humanitaire, la Chine, et qui prend le contrôle de toutes les infrastructures. Quelles sont vos relations? Comment faites-vous entre organisations humanitaires? Vous êtes bien obligé d'être sur les mêmes lieux, de vous voir, de vous coordonner, certainement. Et comment tu vois l'arrivée de la Chine à travers l'activité économique fondamentale? Petite question.
Bon, désolé Bernard, je ne connais pas d'organisation non gouvernementale chinoise. Si ce n'est la Croix-Rouge chinoise, mais elle reste chez elle. Donc elle n'a pas d'action sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui. Par contre, le gouvernement chinois a des actions politiquement humanitaires ou humanitaro-politiques de construction souvent d'hôpitaux, de postes de santé, etc. Et finance les gouvernements dans des projets de réhabilitation de systèmes de santé, mais pas comme le fait comme le fait le monde humanitaire, mais plus dans le sens où il y a une relation évidemment de crédit, d'argent, etc. Et de politique et de voilà quoi. Il y a des pays comme Sao Tome et Principe par exemple qui avaient une ambassade Taïwan sur leur sol et ils ont dû enlever l'ambassade pour pouvoir être appuyés par les Chinois pour pouvoir et les Chinois, ils disent, nous, on a de l'argent pour vous si vous enlevez l'ambassade de Taïwan. Bon, il y a des échanges politiques, diplomatiques, etc. Les Chinois, bon, c'est vrai, quelque chose, un chiffre que je n'ai pas donné encore sur l'Afrique, c'est que en 2050, comme je vous l'ai dit, il y aura 2 milliards d'habitants, mais 60% seront dans des villes. Et les plus grosses villes du monde seront au Nigeria, l'Afrique du Sud, Nigeria, c'est énorme. Abuja, c'est tentaculaire. C'est... Ça veut dire que nous, le monde humanitaire, doit repenser toute notre action de manière urbaine. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des camps de réfugiés, dans des, dans des structures un petit peu vers les extérieurs.
Comment ?
Ambrose ? Qui dit mieux ? Voilà, c'est la fatigue qui commence à arriver. Bon, dans des structures qui sont plutôt sur le terrain, en brousse, etc., excentrées. Merci. Mais là, il faut repenser notre façon de travailler. Et les Chinois, eux, ils ont une façon très claire. C'est le gouvernement veut ça, on lui donne ça à condition qu'on a ça. Par exemple, en RDC, c'est eux qui ont les mines Gécamine, c'est 80% de la production mondiale des terres rares pour pouvoir travailler et fabriquer ce genre de choses, ou les ordinateurs, c'est les Chinois qui l'ont. C'est tout, c'est fini. Ça veut dire qu'ils ont toute la production de ce genre de matériel. Et comment ils l'ont eu ? Ben évidemment, hein, c'est des relations financières avec les leaders des pays. C'est tout. Un leader, il va dire, j'ai envie que ma population soit développée, qu'elle puisse avoir ce genre de matériel, qu'elle puisse travailler, être éduquée, avoir de la santé, mais j'ai pas l'argent. Alors, il y a les Chinois qui disent, ben, nous, on l'a. Mais c'est un crédit sur 30 ans, et comme c'est sur 30 ans, ben, tu vas multiplier par deux le prix. Donc, en fait, ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est le fait de les pendre. Voilà. Il n'y a pas de Chinois dans la salle ? Voilà. Merci.
Bon, ben, merci, Denis, pour tout ça. Je vous rappelle, la prochaine conférence de la pupe en vol, c'est le mercredi 13 novembre à Rieux-Volvestre, dans la salle du Moulin. Donc, ce ne sera pas ici. Et le sujet, c'est 1200 ans sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et la conférencière, c'est Adeline Rucoua. On vous attend. En attendant, on peut passer à table.
Un petit mot pour remercier, comment on dit, pupe en vol. Hein, parce que c'est toujours important de partager cette expérience humanitaire, parce que ça peut amener d'abord des vocations, hein, quand vous allez partager ça avec vos enfants, petits-enfants, etc. Et puis ça peut amener aussi des idées autour de nous. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de nous. Et donc, voilà, il y a peut-être des idées à creuser là-dessus. Et donc, Poupe en vol, merci beaucoup. Ali, Bernard, merci.